Pourront.
Le club rugby, lundi, 18h30, 19h.
Bonsoir Valérie Menu.
Bonsoir. L'invité du club rugby ce soir aurait pu être un grand footballeur. Jeune, il a été repéré par le FC Nantes, mais il a refusé l'offre. Il ne voulait pas quitter le Pays Basque et cette décision a pesé lourd dans l'histoire du rugby parce que sa carrière de joueur, stoppée il y a un peu plus de 25 ans, comporte encore des records, toujours pas tombés à ce jour. Arrière le plus capé de l'équipe de France, meilleur marqueur d'essai de l'équipe de France et il est toujours considéré comme l'un des plus grands joueurs de rugby de la planète. Et même quand il a raccroché le maillot, eh bien, il a endossé le costume de dirigeant, président du BO de 95 à 98, de 2008 à 2015, président de la Ligue nationale de rugby pendant 10 ans. Il a professionnalisé son sport en France et de 2012 à 2016, il a été vice-président de la Fédération française de rugby. Aujourd'hui, il est toujours à la FED, au comité directeur, dans l'opposition Laporte. Vous aurez reconnu Serge Blanco.
Le lundi, c'est Club Rugby.
Serge Blanco, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous ce soir. D'autant que vous étiez encore ce matin à Paris, au comité directeur de la FEDE, justement, qui au passage d'ailleurs tient à prolonger jusqu'en 2023 Altrad, sponsor du maillot du 15 de France pour 35 millions d'euros. Ça, c'était pour l'info du jour. Alors justement, avec vous, on va tout de suite parler de l'équipe de France. L'éviction de Guy Novès. Vous étiez parmi ceux qui l'avaient mis en place.
Bien sûr.
Guy Novès. Cette éviction, il vous semblait nécessaire, inévitable après 6 défaites et un match nul, ce bilan catastrophique, ou fallait-il en fait persister dans ce projet et le maintenir dans ses fonctions?
Ben, c'est sûr que si nous étions restés, on aurait vu peut-être une formule complètement différente. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a un dialogue qui peut s'instaurer uniquement sur le fond et sur la forme. Le fond, je ne me permettrai pas de parler parce que, en tant que président de club, un certain temps, ça m'est arrivé de d'évincer quelques entraîneurs. Après, par contre, sur la forme, je pense que c'est là où le bât blesse, quoi. Hein. Je pense que il aurait fallu amener quelque chose de différent en termes de communication et puis surtout sur le fait de pouvoir avertir Guy Novès qu'il n'allait plus être l'entraîneur d'équipe de France et qu'il ne l'apprenne pas par des médias.
Alors, il l'aurait appris par Jean-Baptiste Elissal, qui aujourd'hui, en plus, a confié qu'il avait appelé Guy Novès le matin même, voilà, pour un rapport d'homme. Peu importe, de toute façon, la décision est tombée. Guy Novès, d'ailleurs, le prend très mal. Il l'a confié au journal du dimanche hier. Il le vit encore très mal. Vous comprenez tout cela, et c'est l'équipe de France avant tout, et puis finalement, les hommes passent après?
Ben, vous savez, on est dans un système un petit peu qui a changé. On est dans un système financier où aujourd'hui, il faut absolument des résultats. Alors à travers ces résultats, il faut bien que quelqu'un trinque. Les joueurs ne peuvent pas trinquer parce que on peut les prendre, les faire jouer et les changer. Mais un entraîneur, c'est celui qui amène toujours la bonne parole. Et malheureusement, s'il y a bien changé une seule personne, il vaut mieux que ce soit l'entraîneur. Alors j'arrive à comprendre ce système-là, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette communication. Et c'est vrai que ça me dérange énormément. Alors après, ce qui concerne Guy... Nous l'avions choisi pour ses compétences et puis pour ses résultats. Alors c'est vrai que malheureusement, les résultats n'ont pas été là pendant un certain temps, mais tout dépend de savoir ce que l'on s'était fixé comme but. Est-ce que c'était de remettre en place un système qui pouvait permettre à cette équipe de France de devenir compétitive, et surtout avec des nouveaux joueurs, et d'aller chercher donc une nouvelle génération? Alors est-ce qu'on pouvait lui laisser le temps ou pas? Bon, Bernard Laporte a décidé autrement.
Alors Jacques Brunel, donc le successeur de Guy Novès, recevait aujourd'hui à Marcoussis apparemment 13 des 14 entraîneurs du top 14. Verne Cotter, visiblement, n'était pas là. Mais voilà, cette idée de prendre un pool de 5-6 entraîneurs du top 14 pour épauler le staff de l'équipe de France juste avant les événements, ces experts à la pige, vous en pensez quoi? C'est viable?
C'est très difficile parce que les employeurs de ces entraîneurs sont les clubs. Et donc, il est très difficile, peut-être pour un club, de se passer de son entraîneur pendant une période bien définie, qu'elle soit de 8 semaines ou 6 semaines ou 4 semaines. Je crois que c'est là où il y a une véritable difficulté. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces entraîneurs ont été aujourd'hui réunis, à savoir ce qu'on leur a demandé, à savoir ce qu'on leur a proposé en termes d'aide pour développer véritablement les forces de cette nouvelle équipe de France. Je crois que ça peut être sympathique. Après, je crois que très sincèrement, il faut garder un pool de l'entraîneur, et puis après, il faut peut-être s'appuyer sur d'autres personnes qui sont compétentes et qui sont en lien direct avec les internationaux. Je pense que c'est ça qu'il faut véritablement développer.
De toute façon, les entraîneurs ne s'y trompent pas. Ils ont tous décliné pour le tournoi. Ça avait vraiment un calendrier trop juste. Par contre, éventuellement pour la tournée de juin, Nouvelle-Zélande, notamment Franck Azéma a dit pourquoi pas.
Oui, mais bien sûr.
Mais ça, ils vont sacrifier leurs vacances. Donc on en arrive quand même à un sacrifice pour la patrie. Enfin, on en est là dans le rugby français.
Bon, je pense que ils vont pas sacrifier, ils sont passionnés. Alors c'est ce qui est intéressant aussi. Non, mais maintenant c'est vrai que à mon avis, il faut qu'il y ait un grand patron. Ce patron, bon,
c'est Jacques Brunel ou Bernard Laporte.
Non, bon, je pense qu'il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de penser que Jacques a fait ses preuves et moi je parlerai pas sur l'homme parce que l'homme pour moi il est irréprochable. Après l'entraîneur, aujourd'hui les gens peuvent penser certaines choses. Moi je crois qu'il est aussi très fort. Maintenant lui à le prouver, il sait pertinemment qu'il rentre dans une arène et que dans cette arène eh bien, il va falloir qu'il ait l'aide de tout le monde pour pouvoir réussir. À commencer par les joueurs parce que jusqu'à maintenant on débat autour des entraîneurs et on parle pas beaucoup des joueurs. Je crois que il y a un joueur qui a pris la défense de Guy Noves, c'est un ancien Biarro, et à partir de là, bon, je crois que lui a vu la réalité en face. Les choses font que un joueur se doit de se donner à 200%. Quand on a envie de porter le maillot ou frapper du coq, on est prêt à faire beaucoup de choses, mais à se battre aussi sur le terrain. Et c'est vrai que de temps en temps, eh bien, on n'avait pas cette impression-là de la part des joueurs.
Alors, certains disent que ce groupe avait le moral de plus en plus en berne, et justement, le maître mot qui revient un petit peu partout dans tous les discours, là, que ce soit Jacques Brunel ou ses adjoints, Bonner, etc., c'est redonner confiance. On a l'impression que c'est juste ce qui manque. Enfin, si c'était juste ce qui manque à l'équipe de France, j'ai envie de dire que ce ne serait pas trop grave. On a quand même un sentiment d'urgence, là.
Ben, je crois aussi que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, on a eu pendant des décennies des joueurs qui étaient capables de s'adapter et un rugby exceptionnel que l'on avait l'habitude de jouer. Aujourd'hui, peut-être, posons-nous les questions, à savoir d'abord un si la génération que nous avons connue ou les générations que nous avons connues ont été aussi fortes que celles qui les ont précédées. Et puis partons à la quête aujourd'hui de la découverte de certains talents. C'est vrai qu'il y a certains jeunes, en tout cas ça donne l'impression qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont susceptibles de d'afficher de belles intentions et qui vont faire preuve de d'harmonie, preuve d'amitié pour former un nouveau groupe et que ce groupe sera compétitif, on l'espère, le plus rapidement possible.
Alors, de toute façon, tout le monde a les yeux rivés sur le début du tournoi, le 3 février, la réception de l'Irlande. Jacques Brunel l'a encore rappelé cet après-midi, ce sera un jeu simple, hein, de toute façon, et même limite, il a dit partir sur des bases donc simples, un jeu basé sur l'intensité et la vitesse, un petit peu le jeu de Guy Noves, finalement, non ?
Oui, mais tous les jeux se ressemblent. Après, vous savez, c'est la communication, c'est toujours pareil. Bien sûr qu'on a envie à chaque fois de gagner le tournoi des destinations, sinon ce serait même pas la peine de se présenter. Maintenant, il y a une tâche qui va être très difficile et j'espère que cette tâche sera suivie d'effet pour qu'il y ait de la concrétisation sur le terrain. Vous savez, les joueurs sont ce qu'ils sont, ils savent pertinemment que le fait de porter le maillot du 15 de France leur permettra d'assurer une carrière par rapport à du professionnalisme. On en est là aujourd'hui. Alors, ce qu'a envie de dire le nouvel entraîneur, vous savez, le président l'a dit aussi. Et malheureusement, et l'autre avant encore, il l'avait dit aussi. Et c'est vrai que la tâche est difficile. Alors, espérons en tout cas que cette tâche va se transformer assez rapidement avec des bons résultats.
Et les joueurs, on va en parler dans quelques instants. Restez avec nous d'ici une minute.
France Bleu. France Bleu Pays Basque vous souhaite une très bonne année 2018.
Aupa, Euskal Herria, hemen, Jokin Etxeberria, zuen Donibaneko kapitaina, urte berrion, deneri. Bonne année à toutes et à tous. Meilleur vœu.
Très bonne année 2018 avec France Bleu Pays Basque. France Bleu Pays Basque. France Bleu. Le club rugby. Lundi, 18h30, 19h.
Et notre invité ce soir, c'est Serge Blanco. Alors, on a parlé de la responsabilité des joueurs, parce que justement, ce projet Laporte-Brunel porte beaucoup sur le staff, en tout cas, on a beaucoup entendu parler. Mais les joueurs, donc, toujours aussi sollicités, le championnat est long, il y a la Coupe d'Europe, ça ne libère pas des dates, tout ce système, la mise en place par Laporte-Brunel pour s'entraîner avec l'équipe de France, tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser aux joueurs, alors, voilà, le top 10, le top 12, libérer calendrier des dates pour vraiment avoir un pool joueur équipe de France pour vraiment s'entraîner et construire quelque chose avec l'équipe de France.
Je ne sais pas s'il faut un top 10 ou un top 12, peut-être un top 16 avec deux poules de 8. Après le tout, c'est de savoir exactement ce qui va être fait et ce que les joueurs seront capables de faire pendant tout ce championnat. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut trouver des dates qui puissent permettre d'avoir la récupération, d'avoir pour pouvoir se préparer. Des avancées ont été amenées. D'abord, avait été amené du temps de Pierre Camus, et puis ont été un petit peu améliorés depuis que le nouveau président est arrivé. Mais on s'aperçoit surtout que c'est quand même un mal qui est plus profond. C'est pas des résultats immédiats. C'est-à-dire qu'il faut aller former les jeunes, il faut aller voir dans les clubs, il faut mettre en place tout un système qui permette à ces jeunes de pouvoir évoluer tranquillement et qu'ils puissent arriver au maximum de leurs possibilités. À savoir aussi que tout le monde se plaint sur le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers. Alors, il faut dire aussi que les étrangers nous ont permis de pouvoir passer un cap. À savoir aussi que notre jeu est un jeu qui évolue à l'inverse de beaucoup d'autres sports. Il y a une rapidité qui est excessive aujourd'hui, à mon sens, quand je parlais excessive, parce que elle laisse entrevoir des chocs faramineux qui aujourd'hui risquent de peser très fort sur la santé des joueurs. Alors, comment on peut faire? Mais là, ce n'est pas que le rugby français qui est mis en cause. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion mondiale par rapport à notre sport et par rapport à l'évolution de notre sport. Voilà, donc c'est tout cela. Après, je pense et j'ose espérer qu'on se donnera le temps de former, de mettre en place tout un système, et même si les résultats ne sont pas immédiats...
Mais à chaque fois, il y a une urgence, parce qu'il y a un tournoi, qu'il y a une Coupe du Monde, il va y avoir une Coupe du Monde en France.
Non, mais l'urgence, on se la met par rapport aux résultats, mais ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir l'urgence par rapport à la conviction que peuvent avoir les joueurs, à la volonté qu'ils mettent sur le terrain. Parce que, en fin de compte, on reprochera pratiquement jamais à des joueurs de se battre sur le terrain. On va être désespéré quand on va voir qu'ils sont amorphes, qu'ils ne font rien, qu'ils ne donnent pas
le meilleur d'eux-mêmes. Serge, parce que ils payent cher ce calendrier dément. Là, regardez Clermont, 10e du top 14, 23 blessés. La situation d'il y a deux ans. Après ces deux finales, il y a deux ans, Clermont avait payé tribu. Là, ça recommence. Hier soir, ils se sont pris une tôle, face au Racing. Ce jeune joueur obligé d'aligner des espoirs, son premier match en top 14, ce jeune Samuel Ezeala, sorti KO, ça a marqué tout le monde. Vous regardez les réseaux sociaux, il y a même des joueurs qui réagissent. Tout le monde. Pierre aujourd'hui dit, il faut vraiment, je le cite, il faut vite changer quelque chose dans notre rugby. Tout le monde s'indigne de ce sport qui devient violent, qui n'est plus un sport d'évitement.
Mais nous sommes parfaitement d'accord par rapport à tout cela. Donc après le tout, c'est de savoir exactement s'il y a un bon nombre pour faire un championnat qui soit cohérent, s'il y a un temps de récupération, un temps de préparation qui soit véritablement mise à la disposition des joueurs et des entraîneurs. Et peut-être aussi faudrait-il voir notre sport comme étant non pas un sport à justifier le professionnalisme, et donc permettre d'avoir peut-être des entraînements qui soient moins intenses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les jours, on fait une heure de musculation, on fait de la vitesse, on fait de la touche, on fait ceci, on fait cela. C'est-à-dire que on fait pratiquement comme si quelqu'un était à l'usine. Sauf que je pense qu'il faut que même là, on lève un petit peu le pied et qu'il y ait des basculements qui soient nécessaires, au moins dans le temps de récupération et de préparation.
Est-ce qu'il faut un jeu moins brutal et revenir, j'ai envie de dire, un petit peu au jeu que vous avez pratiqué?
C'est toujours difficile parce que on veut toujours améliorer quelque chose. C'est vrai qu'il y a des règles qui ont fait que le jeu est plus rapide. Admettons, si je prends juste la règle simple de la touche, autrefois, la touche, il y avait deux alignements et puis il y avait un lanceur et puis il y avait une détente naturelle qui était pratiquée par un des joueurs. Aujourd'hui, on vous permet d'avoir un soutien, de lever le joueur, donc d'activer le jeu, d'avoir une transmission de balle qui est plus rapide. Et à partir de là, c'est vrai que, vu le gabarit de certains joueurs, il y a des chocs qui sont inévitables. Et ces chocs, ils sont violents. Alors, c'est cette violence-là dont il faut se méfier et surtout s'affoler.
Mais en même temps, ce gabarit, ces heures de physique dont vous parlez, il faut bien les pratiquer pour avoir des joueurs qui vont sortir au niveau international et qui doivent être capables de lutter face à des Blacks, face à des Springboks qui sont, eux, j'ai envie de dire, limite à côté de nous, surentraînés.
Oui, mais il y a des temps qui, peut-être, pendant la saison, sont bien plus importants que d'autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, une saison, si elle pouvait faire que 8 mois, ça serait formidable.
Donc, il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être alléger le championnat.
Mais c'est pas une question. Oui, on peut toujours alléger, le nombre de matchs. Il faut l'alléger, très certainement. Après, le tout, c'est de savoir comment on va l'alléger et avec combien d'équipes on va pouvoir faire un championnat. Parce que vous allez avoir les défenseurs de la poule unique, d'autres qui vont vouloir, comme moi, deux poules de 8, avec des phases finales, et ça ferait que 22 matchs dans la saison, au niveau des clubs. Alors après, on va vous dire, oui, mais avec 22 matchs, on rentabilise pas l'argent que l'on met, ou que les propriétaires mettent, ou que certains sponsors mettent. Bon, voilà, quoi. Alors à savoir, est-ce qu'il vaut mieux pas une saison un peu plus courte et dynamique, avec fait de jeu et de très beaux résultats? Bon, voilà, c'est toute cette question-là sur laquelle il faudrait peut-être, se poser et arriver à discuter. Sauf que les intérêts des uns et des autres ne se partagent pas tout le temps.
Et de la télé?
Oui, et des médias. Parce qu'il n'y a pas que la télé. Parce que les médias, que ce soit la radio, que ce soit vous, que ce soit d'autres médias, que ce soit les journaux, obligatoirement, c'est intéressant. Il y a du papier à vendre, il y a des journaux à réaliser, il y a des émissions à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pousse toujours un petit peu plus à l'excès. C'est-à-dire que, alors, vous parliez de meilleurs marqueurs d'essais, de records de sélection, de records de ceci. À notre époque, on jouait à la fin de la carrière, on faisait un compte, on disait, ah, il a fait tant de matchs. Aujourd'hui, on fête le 50e match, on fête le 100e, on fête ceci, donc voilà. C'est tout un business qui s'est mis en place, et ce business, eh bien, il faut surtout qu'il pense aux joueurs avant tout, quoi. S'il arrive à penser aux joueurs, on est capable de sortir de cette ornière.
Allez, d'autres joueurs, dans quelques instants, ceux du BO, avec vous.
France Bleu! France Bleu Pays Basque vous souhaite une très bonne année 2018. Bonjour, c'est Pascal, le techno. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. Venez vous réchauffer avec nous sur France Bleu Pays Basque. Ici, on tombe les moufles. Très bonne année 2018 avec France Bleu Pays Basque. France Bleu Pays Basque. France
Bleu. Habituellement dans cette émission, le club rugby, Valérie, c'est vrai qu'on laisse le choix d'un disque à notre invité. Exceptionnellement, j'ai fait moi-même le choix du disque. Il est pas au hasard, c'est France Gall. Alors là, vous allez me dire, ah bon, bah oui, évidemment, France Gall est mort hier. Non, oui, mais là, c'est juste pour le clin d'œil, évidemment, au rugby. Parce que France Gall, Serge Blanco, ça vous a pas mal marqué. Je vais vous laisser le choix de deux dates, 91 ou 89. C'était à l'époque où le tournoi n'avait pas 6 nations, mais 5 nations. Et dans ces deux dates, bah, vous avez à chaque fois fait des matchs juste exceptionnels. C'est laquelle que vous retenez, 91 ou 89?
Vous savez que vous faites plaisir.
D'accord. Vous souvenez plus?
Oui, je me souviens. 91, ça va être mon dernier match du tournoi.
Oui.
Et puis 80.
Ça avait fait 36.
Oui, oui.
À 3.
Avec une transformation à la fin du match. Mais après.
Et vous aviez marqué l'essai.
Oui.
Le premier essai.
Oui.
À la 3e minute.
Oui, oui. Et l'autre date?
L'autre date, c'est 89. Et j'ai pas tout noté. Mais tout ce qui est. Voilà. France Gall est avec nous, on résiste.
Prouve que tu existes.
Il y a eu beaucoup de France-Galles, mais il n'y a qu'une France-Galles, alors dansons encore sur les accords qu'on aimait tant. C'est le tweet de la Fédération Française de Rugby. Et alors, Serge Blanco, notre invité dans le club rugby, en une minute, vous étiez en train de nous raconter avec Valérie, en fait, que vous aviez organisé les Olympiades...
Oui, de Biarritz.
De Biarritz, et vous aviez invité...
France-Galles, Michel Berger, Balavoine, Patrick Bruel, mais ça a duré pendant 5-6 ans, avec des sportifs. Et on les faisait jouer au rugby, on les faisait jouer en levée des rideaux du Biarritz.
Vous voulez dire que France Gall a joué au rugby ?
Non, pas, mais lui, oui. Mais elle,
Michel
non.
Berger.
Elle a donné
coup
d'envoi.
C'est Serge Blanco qui est dans le club rugby jusqu'à 19h.
France Bleu Pays Basque, club rugby.
UBO, Serge Blanco. Oui. Donc, vous y avez joué, vous avez été président. Aujourd'hui, vous avez toujours des parts dans le club, mais vous n'êtes plus dans le sportif. En tout cas, vous avez quand même un œil forcément avisé, amoureux sur ce qui se passe au club. Kylian Hamdaoui, Alex Araté, Alban Placine vont partir en fin de saison pour le top 14. On a eu Nicolas Brusque, le président du BO, ce week-end, qui nous a dit, on peut pas lutter. C'est, quelque part, c'est le jeu. Ces joueurs sont en pleine possession de leurs moyens. Le top 14 a les yeux sur eux. C'est leur carrière. Donc, mais peut pas lutter rugbystiquement, financièrement parlant. Est-ce que le fossé quand même entre la Pro D2 et le top 14 est pas en train de se creuser? On voit aussi avec le système que ça va être compliqué de monter. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui est en train de se creuser?
Je sais pas si un fossé, mais de toute façon ça a toujours existé entre la deuxième et première division. Il faut que la Ligue puisse donner les moyens aux clubs qui montent d'être compétitifs. Et je pense que c'est ça la réalité du sport. Et c'est vrai que on s'aperçoit qu'un club qui a la chance de monter de Pro D2 en top 14 a d'autres moyens, a d'autres partenaires, augmente son budget. Le tout, c'est de ne pas être omnibulé à savoir si on doit garder tous les joueurs ou pas. Alors aujourd'hui, c'est pas le ce qui se passe au niveau du Biarritz Olympique, parce que Biarritz Olympique n'est pas en position de pouvoir monter.
Tout de suite.
Mais on est surtout avec des jeunes que l'on a formés, des jeunes qui sont talentueux, qui sont bons, qui amènent à l'équipe du Biarritz Olympique. Il faut accepter la règle. La règle du jeu, elle est là. C'est-à-dire que le seul inconvénient que je vois, moi, c'est par rapport à ces signatures. Moi, j'aurais préféré que ces signatures puissent être effectuées en fin de saison. Et que l'on n'aille pas piller un club un an avant. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on n'a pas pu maîtriser pendant plusieurs années. C'est le seul inconvénient que nous ayons par rapport à ces signatures de certains joueurs aujourd'hui du BO, mais d'autres joueurs aussi qui changent de club et qui annoncent 8 mois avant qu'ils vont jouer pour une autre équipe. Et on se retrouve dans des situations ubuesques de temps en temps, où on ne sait pas si on doit remettre un joueur contre une équipe contre laquelle on va jouer ou pas, parce qu'on a des doutes. Mais voilà.
En un mot, parce qu'il nous faudrait une autre émission, mais pour le coup, pour revoir du rugby de haut niveau, très haut niveau au Pays Basque, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est viable?
Vous voulez me faire parler de quelque chose en particulier?
En même temps, on a
plus le temps.
Allons-y,
parlons de fusion. Mais écoutez, moi, je pense que j'ai été un des défenseurs à une certaine époque de la fusion, au même titre que j'ai été le défenseur de la séparation des clubs quand j'y jouais, parce que je pense que c'était une époque où on pouvait véritablement se passer de tout cela. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la discussion, parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai passé la main, il y a des personnes qui sont responsables et à qui je fais confiance. Maintenant, il faut pas oublier, quoi. Il faut pas oublier les situations ou la situation d'il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui a craché sur l'autre. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier. Il faut faire en sorte que celui qui a craché sur l'autre, s'en souvienne. Il s'en souvienne encore pendant un certain temps.
Mais les hommes passent.
Les hommes passent, mais ils sont encore là, ceux-là.
Ah, bon, on verra d'ici quelques années.
Ça me paraît flou, c'est ce que vous racontez.
Non, mais il faudrait une autre émission, on vous réinvitera. En tout cas, merci beaucoup Serge Blanco d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente année. Et justement, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour cette année? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Serge Blanco? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au rugby?
Non, au rugby surtout, que nous ayons des résultats. Et puis surtout que le Pays Basque, dans son ensemble, ait un autre visage.
Bon, vous reviendrez. Vous êtes obligé de revenir.
Il y a des choses à raconter, à mon avis.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Serge Blanco, donc pour parler équipe de France, pour parler Biarritz Olympique. On rappelle que le BO est cinquième
ah,
de Pro D2. aujourd'hui, qui jouera ce jeudi à Béziers.
Voilà.
Et Bayonne, pour sa part, eh bien, Bayonne est, je les cherche, 10e du championnat. Et ils recevront Montauban, le leader invaincu depuis un paquet
dimanche.
De temps déjà, dimanche. Voilà, exactement. Et vous pourrez vivre ces matchs, bien entendu, en direct sur France Bleu, Pays Basque.
Merci. À tout entretien est à réécouter sur francebleu.fr. Merci Valérie Menu, merci Serge Blanco.
Merci, au revoir.
La météo au Pays Basque, c'est de la...